Le texte que je vous propose de méditer ce matin est très court. C'est un extrait de l'Épître aux Romains. Il s'agit d'un texte qui est aujourd'hui proposé à la lecture et à la méditation dans de nombreuses églises protestantes et catholiques de par le monde. Personnellement, je crois que ces deux petits versets que nous allons entendre mériteraient d'être connus par cœur, un peu comme quand on dit... je ne sais pas moi, Jean 3,16, tout le monde connaît Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà, ça c'est un texte qu'on connaît par cœur. Je pense que ces deux petits versets de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, méritent eux aussi d'être connus par cœur, et je vous invite à les entendre. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, qui plaît à Dieu. C'est là pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est un bijou, ce texte, un vrai joyau. Pas au sens simplement où il serait joli, mais parce qu'il est au cœur des choses. Il est important. Il nous dit quelque chose de capital, et aussi, je crois, de tout à fait pratique. En fait, au cœur de l'Épître aux Romains, ces deux petits versets forment un genre de charnière. Un peu comme il y a des charnières dans les paravents, vous savez. Vous savez comment c'est fait un paravent? Il y a au moins deux vantaux, deux panneaux en bois ou en tissu, et au milieu du paravent, il y a une articulation, des charnières qui donnent justement la possibilité à la fois de solidariser et puis de trouver le bon angle entre les deux panneaux pour que ça tienne debout. Eh bien justement, il me semble que l'Épître aux Romains a une structure un peu comme cela, avec deux panneaux, et ces deux petits versets font cette articulation, cette charnière si importante qui permet à l'édifice de tenir debout, et non seulement à l'Épître aux Romains de tenir debout, mais je dirais même à l'Évangile de tenir debout. Premier volet de l'Épître aux Romains, les chapitres 1 à 11, Paul y décrit ce que Dieu fait pour nous. Il parle de la condition humaine telle qu'elle est, si fréquemment portée à ne se préoccuper que d'elle-même et à oublier de servir Dieu et les autres. Et puis Paul développe dans ces chapitres toute la miséricorde de Dieu en Jésus-Christ pour les Juifs et pour les gens de toutes les nations. Et puis, le deuxième volet, chapitre 12 à 16, Paul y décrit ce que Dieu attend de nous et comment il entend voir nos vies transformées. Paul parle de l'Église, le corps nouveau du Christ, et des conséquences pour notre vie et pour notre société. Les deux volets du paravent sont liés par ce joint articulé de ces deux petits versets où Paul nous exhorte par la miséricorde de Dieu, ça serait le premier volet, à nous offrir nous-mêmes en sacrifice saint et agréable à Dieu, ça serait le deuxième volet, ne plus nous conformer au monde présent, ça serait le deuxième volet, nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, premier volet. Cette articulation qui tient dans ces deux versets est capitale, vraiment, je crois, non seulement pour l'Épître, mais pour tout le message de l'Évangile. Voilà pourquoi je pense que ça vaudrait la peine qu'on connaisse par cœur. Romains 12, 1, 2, j'espère que ça finira par rentrer. Non seulement pour qu'on en sache un de plus, mais surtout parce qu'on en aura saisi la portée, parce qu'il s'agit très précisément de ce chaînon souvent manquant entre la parole et les actes, entre ce que nous avons reçu et ce que nous transmettons, entre le projet de Dieu pour nos vies et ce que nous mettons en œuvre au plan pratique. Alors, comme les deux versets sont très courts, mais très denses, je ne vais pas pouvoir les commenter exhaustivement ce matin, mais je vais m'arrêter simplement sur quatre mots qui me semblent avoir une saveur particulière. Le mot « tendresse », le mot « sacrifice », le mot « transformer » et le mot « intelligence ». Alors, commençons par la tendresse, parce que c'est là le premier mot qu'il nous faut entendre, je crois. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu. Le premier mot que nous recevons, c'est celui-ci, la tendresse de ce Dieu qui nous regarde comme un père ou une mère regarde son enfant, avec la même attention, avec la même espérance, avec le même émerveillement. Il y a quelques instants, nous avons vécu le baptême de Laura, nous avons vu sous nos yeux les regards, ceux de ses parents, de ses grands-parents, de sa marraine. Et ça nous donne un peu une idée de la manière dont Dieu regarde notre vie. Ce premier mot de la tendresse, il est indispensable comme condition de cette articulation entre le dire et le faire, entre une foi héritée et une foi transmise et vécue. Ce premier mot de la tendresse, c'est vraiment le contexte dans lequel on peut s'engager dans une vie de foi qui ose passer de la parole aux actes. Passons au deuxième mot. Et là, je sais que forcément, vous allez dire, ça se gâte. Le sacrifice. Ceux qui ont eu l'occasion de voyager au Québec ont peut-être entendu parfois cette expression dite sur ce ton-là. Sacrifice. Et c'est une forme de juron. Comme dans d'autres régions, on dirait en misère, ou la région niçoise, c'était malheur, sacrifice. C'est extrêmement injuste d'avoir cette vision-là du sacrifice, parce que c'est vraiment ne rien comprendre à ce mot. Comprendre le sacrifice comme sacrifier sa vie, ce serait gâcher sa vie, y renoncer, la perdre, la détruire. Il n'y a pas plus mauvaise interprétation du mot sacrifice que celle-là. Le sacrifice, étymologiquement, ça veut dire rendre sacré. Et si Paul nous exhorte à offrir notre vie, notre corps en sacrifice, c'est une manière non pas de le détruire, mais bien au contraire de le valoriser, de l'exalter, de lui accorder un prix infini. Notre vie, notre corps n'est pas juste un sac de peau, n'est pas juste une enveloppe sans valeur, elle est sacrée. Et franchement, il faut être vraiment tordu et comprendre tout de travers. Il faut vraiment avoir perverti toute la religion et la spiritualité pour penser que se faire sauter avec une ceinture d'explosifs, ce serait sacrifier sa vie. Ce n'est pas sacrifier sa vie. C'est la gaspiller, c'est la trahir, c'est la falsifier, c'est l'outrager. Mais ce n'est en rien la sacrifier. Parce que le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est tout le contraire d'une vie qui donne la mort. C'est une vie qui donne la vie. C'est une vie vivante. Et d'ailleurs, Paul est sans ambiguïté à ce sujet. Il dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. » Rien à faire d'avoir un corps mort. Ça, ce n'est pas un sacrifice qui plaît à Dieu. Ça, ce n'est pas une manière de dire que la vie est sacrée. C'est tout le contraire. Soyez vivants, restez vivants. C'est une existence pleine de vie, dit Paul, qui est un culte raisonnable rendu à Dieu. Sacrifier sa vie, en faire un sanctuaire, quelque chose de sacré, ça c'est un culte raisonnable qui plaît à Dieu. Il faut vraiment être tordu pour penser que le Dieu de la vie, le Dieu qui porte sur nous un regard de tendresse, pourrait vouloir que on se fasse sauter. C'est tout l'inverse. Il nous veut vivants. Il nous veut vivants et il ne s'intéresse pas non plus qu'à notre âme ou à notre esprit. Non, c'est toute notre existence. Et je trouve fort que Paul dise « Offrez vos corps ». Ça, c'est un culte véritable rendu à Dieu. La tendresse de Dieu qui me fait regarder ma vie, appelée à la vie, comme sacrée. J'en viens au troisième mot, qui est un verbe, tout un projet aussi, qui est le verbe « transformer ». Qui est un verbe que j'aime beaucoup. Il est là, d'ailleurs, une parole qui transforme ma vie, une foi qui transforme le monde. « Transformer ». Paul l'utilise en contradiction avec un autre verbe de la même famille, qu'il dit toujours dans ces deux petits versiers charnières. Et le verbe qu'il veut contredire en disant transformer, c'est le verbe conformer. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer. Paul nous invite à être des anticonformistes. Dans conformer, il y a former. C'est-à-dire prendre précisément la forme que notre milieu attend de nous, devenir un bon petit soldat, un rouage bien huilé, un consommateur docile et obéissant. Vous voulez une petite parabole pour bien saisir ce qu'on peut entendre par conformisme? Eh bien, le conformisme, ça fonctionne comme l'eau tiède qu'on chauffe progressivement. Vous connaissez ça? Imaginez, vous êtes une grenouille. Ça va? Vous êtes une grenouille, cet été, en pleine sécheresse. Vous vous êtes glissé dans une maison pour chercher un peu de fraîcheur. Vous avez trouvé la cuisine, sans doute le coin commode. Vous avez trouvé une bassine d'eau toute prête, vous avez plongé dedans, génial, elle était bonne température. Bon, vous n'avez pas tout à fait réalisé que ce n'était pas vraiment une bassine, mais que c'était une marmite. Mais l'eau étant un corps qui chauffe tranquillement, le feu étant doux, au début c'est fort agréable, c'est même un peu plus doux, c'est même très agréable. La température monte et finalement on s'y fait bien, on y est pas mal du tout. Quand ça devient vraiment trop chaud, là, la grenouille que vous êtes se dit « Ah, ça devient très désagréable !» Et vous décidez de sortir de cette bassine et de cette marmite, sauf que vos cuisses de grenouille sont déjà cuites. Le conformisme dans notre monde, ça fonctionne exactement comme cela. Ça rime avec confort au début. C'est commode. On se sent accepté. On se sent à sa place. On se sent reconnu. On se sent dans le coup. Et puis, quand le bain devient trop bouillonnant, eh bien, quand on constate que cela nous met tous en danger, eh bien, on n'a plus les ressources nécessaires pour sortir de ce bain-là. Ne vous conformez pas, dit Paul, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui nous permet d'articuler la parole aux actes, la foi que nous avons reçue à une foi vécue, ce qui nous permet d'articuler ce que Dieu a fait pour nous et que nous entendons dans l'Évangile avec la manière dont il nous appelle à vivre, eh bien c'est un renouvellement de notre intelligence qui peut l'opérer. Et être croyant, vivre l'Évangile, cela exige, cela mobilise notre intelligence. Et là encore, il faudrait vraiment avoir l'esprit tordu et avoir rien compris à l'Évangile si on pensait qu'être croyant, c'est être bête et discipliné, ne pas se poser de questions, tout accepter sans comprendre. C'est faux. Être chrétien, vouloir vivre les promesses de son baptême, se mettre à l'école de Jésus, c'est faire marcher sa tête, son intelligence, chercher à la voir grandir, se renouveler, s'élargir. En un mot, que notre intelligence soit vive, vivante. Et on garde une intelligence vivante en la faisant fonctionner. Et on la garde vivante aussi en la renouvelant, en l'oxygénant. Et ce qui oxygène l'intelligence, ce sont des apports, des déplacements nouveaux. Et là-dessus, l'Évangile est vraiment une mine, parce que Jésus, précisément, nous montre, à travers ses rencontres, à travers ses paroles, tout ce qui peut renouveler notre intelligence. C'est souvent les rencontres des autres, c'est souvent l'écoute des autres, c'est souvent le service des autres qui renouvelle notre intelligence. Ce qui renouvelle notre intelligence, c'est de se laisser rejoindre, de se laisser aimer. C'est parfois se tenir aussi en silence, à l'écart, pour mieux revenir après, dans l'action. C'est parfois oser un geste, avoir l'audace de demander pardon, et la simplicité aussi de le donner. C'est parfois simplement oser vivre la fraternité sans calcul. Laissez-vous renouveler, laissez-vous transformer. Que votre intelligence se laisse oxygéner par les rencontres et les paroles entendues et la contemplation du monde pour en être transformé. Sinon, il n'y a pas trop d'autres alternatives. C'est les cuisses de grenouille. Alors, puisque nous sommes nous-mêmes, à bien des égards, à un temps charnière. Charnière au début de votre vie de famille avec Laura. Charnière dans ce déjà accompli autour de ce projet de mission et le temps de rendre ça réel. Charnière aussi dans ce temps de l'année où beaucoup de choses démarrent et pour notre Église aussi, charnière au démarrage de toute une série d'activités anciennes et nouvelles. Alors, je crois que pour ces temps charnières, nous avons besoin d'une parole charnière. Et j'ai encore voulu la redire une dernière fois, lentement, comme un cadeau, comme aussi une piste très concrète pour articuler ce que nous avons reçu de Christ et de ce que nous sommes appelés à être. Écoutez encore, c'est pour vous. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière en sacrifice vivant, saint, qui plaît à Dieu. C'est là pour vous un culte raisonnable. Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Mm-hmm.